Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippiques sur internet et mobile.
Bonsoir, je suis Dominique Cordier. Nous sommes tous réunis au Cardinal, 5 places de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, pour un nouveau numéro de Radio Balance. N'ayez pas peur, nous allons sortir la boîte à gifles dans cette émission. On va pas commencer par lui, mais on accueillera tout à l'heure Olivier Pellier. On parlera de son départ à la retraite, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord sur la fantastique carrière. Elle est fantastique, elle n'est pas sublime. Fantastique carrière d'Olivier Pellier. J'ai lu sur le site de France Gallo que la carrière était sublime. Il n'y a pas de carrière sublime. Celle d'Olivier Pellier, elle est extraordinaire. Elle est fantastique, elle est unique, elle est sans doute pas sublime. Et on va parler un peu de la manière dont a été médiatisé ce départ à la retraite d'Olivier Pellier, tant sur le site de France Gallo, en dessous de tout, que sur Equidia, en dessous de tout également. On va parler bien évidemment du tracking. J'ai écrit sur les réseaux sociaux qu'il partait à volo. C'est rien de le dire. Le tracking français tel qu'on le connaît aujourd'hui ne sert absolument à rien. Il empêche toute comparaison éventuellement il donne des idées fausses, des chevaux qui courent aux propriétaires, aux turfistes, aux entraîneurs. Autrement dit, on jette là aussi l'argent par les fenêtres. Il va falloir mettre de l'ordre dans la boutique. Mais on va ouvrir une fenêtre bien heureuse avec notre premier invité, c'est Julius Le Tutour. Il est actuellement sur le chemin de Marseille. Il a été depuis juin 2021 un chef des hippodromes d'Anguien et d'hippodromes dont on se souviendra. Il est jeune, il prend de nouvelles fonctions à Marseille Borély, à Marseille Vivo. Il va s'occuper également des centres d'entraînement de Calas et de Cabriès, là-bas dans le sud-est, dans cette belle ville de Marseille. Julius, bonsoir.
Bonsoir.
J'ai avec moi un monsieur qui vous aime bien. On va le saluer également. C'est Hubert Smadja. Salut Hubert.
Bonjour Julius, ça fait plaisir de parler. Voilà.
Bon, salut Hubert.
Julius, un mot sur vous. Vous étiez, je l'ai dit, depuis juillet 2021, le chef d'établissement des hippodromes de Vincennes et d'Anguien. Auparavant, vous étiez régisseur des hippodromes de Lyon. Un peu plus loin dans le temps, vous avez été adjoint au régisseur de Compiègne. Et vous avez débuté votre carrière comme employé de France Gallo. 3 ans qui ont marqué, je viens de le dire, un peu moins de 3 ans, à Vincennes et à Anguien, avec une pluie de records sous votre direction.
C'est ça. Ça a été 3 ans bien remplis. Tout d'abord, bon, pour moi, Vincennes et Anguien, c'était quelque chose d'énorme. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui donnaient cher de ma peau, je pense, 3 ans en arrière, parce que j'avais à l'époque encore que 31 ans. Mais je pense que grâce à une sublime équipe avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, l'aide aussi, bien évidemment, des sociopros qui ont su m'accueillir, qui ont su me conseiller, avec qui, je pense, on a réussi à faire un très bon boulot sur les deux hippodromes. C'est vrai qu'on a eu cette pluie de records à un nombre stratosphérique. Je crois que quand on fait le calcul, on est à peu près à 220 records de course.
Et on a même fini, je vous interromps, on a même fini sur un record pour votre dernier jour de travail dans le Prix de l'Atlantique avec la victoire du cheval de Pierre Beloche.
Ouais. À Anguien. Un hippodrome très décrié en plus.
C'est ça, comme dit Hubert, c'est vrai que c'était Anguien au final. Alors, au-delà de l'ampleur de Vincennes qui est comment dire, le paquebot du trot, Anguien et pour moi, avec Cagnes-sur-Mer, les deux hippodromes fondamentaux, on va dire, de la discipline. Anguien, malheureusement, 3 ans en arrière, était une piste décriée. Les chevaux marchaient sur des œufs, c'était une vérité. Donc, le premier challenge, déjà, était de redonner confiance à cette piste. Grâce à l'accompagnement, toujours et encore une fois, des sociopros, on a réussi petit à petit à redonner cette confiance. Et je pense que même si on a vu un Horsey Dream qui a été, pour moi, stratosphérique, on est aujourd'hui sur une piste qui est régulière et qui ne fait plus mal aux chevaux.
Alors justement, comment on fait pour rendre cette... Parce que ce qui faisait la spécificité d'Anguien, on voyait bien que les entraîneurs étaient un peu timorés à l'idée de déférer. Comment on fait pour assouplir, la rendre un peu plus moelleuse, si cela était possible, cette piste d'Anguien, Julius Tutour?
Eh ben, la rendre moelleuse, déjà, c'était déjà de comprendre cette piste et de comprendre la structure de cette piste, comment elle était fondée à la base. Donc,
on est sur du sable, hein, à Anguien.
Pardon ?
On est sur du sable, hein.
Oui. On était sur une sorte de sable vignamment. Moi, c'était un sable que je trouvais assez abrasif, que je trouvais coupant. Donc, déjà, dans un premier temps, donc, ça a été de décompacter cette piste avec parcimonie, parce qu'on est sur une piste de course, on n'est pas sur une piste d'entraînement. Et restabiliser une piste de course, ça prend beaucoup de temps. Donc, il fallait pas se tromper sur la profondeur sur laquelle on allait. Et deuxièmement, j'ai fait le choix avec les équipes de changer le sable et de partir sur un sable de roi, qui est un sable un petit peu plus alvéolé, un petit peu plus rond, qui existe par exemple à Cagnes-sur-Mer.
Et quant à Vincennes, on parlera après de vos équipes parce que c'est important, c'est bien de leur rendre hommage. Quant à Vincennes, on dit que la multitude, la myriade de records qui ont été battus sous votre égide doit quand même beaucoup aux conditions météoriques qui étaient assez fabuleuses pendant les trois saisons où vous y avez œuvré.
Oui, Stéphane. Bien évidemment que ça en fait partie. On peut parler aussi de l'amélioration, comme je dis toujours, de la race du trotteur ces dernières années. Il n'y a nul doute là-dessus.
Plus vite, plus haut, plus fort.
Il y a eu un vrai travail de régularité fait sur cette piste. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, à mon sens, les entraîneurs, quand ils arrivaient à Vincennes depuis 3 ans, ils savaient sur quelle piste ils allaient tomber. C'est-à-dire que des fois, on avait une piste qui pouvait être un petit peu plus fouillante, un petit peu plus sale, etc. Mais il y avait toujours une communication qui était faite. Et s'il y avait danger ou autre, on communiquait là-dessus et on travaillait. Donc, automatiquement, pour moi, un pilote qui se sent en sécurité sur un circuit, hein, on peut dire un circuit, les chronos, il les bat. Donc, il y a eu beaucoup de facteurs. Et comme vous le dites, Dominique, bien évidemment, les conditions climatiques nous ont aidés. Même si, au final, on a eu cet hiver du moins 7, moins 8 pendant une quinzaine de jours. Globalement, tout s'est bien passé. Et c'est la même chose. Donc, on donne confiance aux socio-pros de venir chez nous et d'avancer, tout simplement. Et en plus de ça, on a des équipes qui sont, elles aussi, en confiance et automatiquement qui font un travail encore plus minutieux.
Alors justement, on ne se rend pas compte, hein, parce que finalement, lorsqu'on regarde les courses sur Equidia, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Vous avez été le porte-parole de ces équipes. Ces équipes, c'est combien de personnes autour de vous pendant 3 ans?
Pendant 3 ans, moi, j'avais 41 personnes en comprenant l'hippodrome d'Anguin. J'ai 6 personnes à l'hippodrome d'Anguin et en moyenne 34-35 sur l'hippodrome de Vincennes. Mais tout est compris. C'est-à-dire que Vincennes, ce n'est pas qu'une piste. Vous avez aussi des personnes qui travaillent dans le bâtiment, des personnes qui travaillent dans les écuries, une régie administrative et forcément tous ces hommes de piste qui sont pour Vincennes au nombre de une petite quinzaine. Ça paraît beaucoup quand forcément vous comparez à la province, mais il ne faut pas oublier que Vincennes, c'est 155 jours de course.
C'est
donc,
ça.
Dans le fond, c'est pas tant que ça.
Oui, Hubert.
Non, bah, je voulais faire une remarque. Je voulais juste demander, quand tu es arrivé, Julius, c'était le même personnel que...
Oui, tout à fait. Même... À Vincennes, Vincennes et Anguin, c'était le même personnel.
Le
la
même
seule
matériel.
Modification qu'on a fait, c'est qu'on a changé, par contre, le chef de piste sur l'hippodrome d'Anguin.
Et le même matériel pour travailler?
Oui. Alors, on l'améliore ce matériel.
Voilà.
On fait forcément des achats, pour avoir un petit peu plus de précision. Peut-être qu'on suit d'un peu plus près le matériel, parce que justement, moi, la chance que j'ai eue, c'est de débuter au bas de l'échelle. Et comme on le dit toujours, même si on est doué ceci, cela sur les pistes, qu'on est un bon tractoriste ou autre, si on n'a pas le bon tracteur, si on n'a pas la bonne tondeuse, si on n'a pas la bonne aire suédoise ou autre. Vous pourrez rien faire. Donc forcément, la minutie sur le matériel de Vincennes et d'Anguin est très importante.
Ouais, donc c'est le même personnel, le même matériel et tout, mais c'est pas les mêmes résultats.
C'est ça.
Hein, donc il faut voir les choses.
Il y a de l'humain là-dedans. Justement.
Mais oui.
Bon, l'humain. Oui. Je vais dire le cheval. Vous êtes un peu tombé dedans. On va saluer d'ailleurs votre papa, Alain Le Tutour, qui connaît très bien l'hippodrome d'Anguien pour avoir été l'un des régisseurs historiques du site et notamment pour la discipline de l'obstacle. Où pratiquement, lorsqu'on a arrêté l'obstacle à Anguien, il a dit je ne comprends pas. Tout est nickel. J'ai fini le boulot. Tous les obstacles ont été refaits. Et on me dit maintenant on ferme. Mais bon, ça il faut aller voir de France Gallo, du côté de France Gallo. Est-ce que votre papa, durant vos différents mandats, vous avez été pendant 2 ans régisseur, je l'ai dit, des Hippodromes de Lyon, Paris autant que la soie, et puis ensuite Vincennes-Enghien, est-ce que votre papa est toujours quelqu'un que vous consultez, auprès de qui éventuellement vous prenez conseil?
Oui, on communique beaucoup. Moi, je me rappelle même quand il était encore à Cannes-sur-Mer, on parlait de gazon tous les deux, on parlait aussi de pistes de trot forcément. Et aujourd'hui, c'est plus un échange, c'est plus un échange entre nous deux. Chacun s'apporte des conseils, voilà, je dirais ça, mais forcément que mon père, qui lui aussi est, enfin, pour moi un exemple et très apprécié dans le milieu, a été une super source de conseils pour moi, bien évidemment. Et comment dire, aussi dans le management des équipes et dans l'humain.
On va saluer le président de la Société des courses de Marseille, Kamel Chebboub, que vous allez rejoindre. La Société des courses de Marseille, je l'ai dit, c'est Borély, c'est 2 hippodromes, Borély Vivo, plus les centres d'entraînement de Calas et Cabriès. Comment va se passer votre prise en main ergonomiquement de ces différents sites, juste le tutour?
Bah écoutez, sur les hippodromes, il y a déjà une équipe en place avec des responsables. Il y a forcément, comme vous l'avez cité, Monsieur Chebboub, qui est quand même quelqu'un de très présent, qui veut vraiment le bien-être de la société hippique de Marseille, le rayonnement aussi du centre d'entraînement de Calas, sur lequel c'est déjà un très beau centre, mais je pense qu'on a encore pas mal de choses à faire ensemble. Même chose, bien évidemment, sur les hippodromes. Moi, quand j'arrive dans un endroit, de toute manière, forcément, tous les dossiers urgents qui doivent être traités, on les traite en priorité. Mais il faut beaucoup observer, parce que chaque société de course a sa manière de travailler, surtout le personnel. Et il faut surtout pas arriver en disant « oui, non mais moi, à Paris, je faisais comme ça, à Lyon, je faisais comme ci ou comme ça », parce que il y a du bon à prendre partout. Et comme je dis toujours, nous, directeurs ou autres d'hippodrome, on est là pour apporter la cerise sur le gâteau. Voilà.
Une dernière question pour Julius Hubert.
Oui, j'ai vu parce qu'il y a Jean-Michel Bazir qui a rendu hommage à Julius en précisant que maintenant, finalement, il n'est pas inquiet puisque le personnel est formé.
Alors ça, c'est un vrai hommage parce que justement, s'il y a bien une personne qui est pointilleuse sur l'état de la piste sur laquelle c'est, vous l'avez, je pose vécu, c'est Jean-Michel Bazir, Julius.
Oui, mais sauf
que... Non, mais Jean-Mi, c'est un homme... Un homme extraordinaire au-delà de son talent de driver. C'est quelqu'un avec qui, moi j'ai beaucoup communiqué pendant 3 ans, qui m'a laissé ma chance. Il y a eu Jean-Michel Bazir, il y a eu Thierry Valdestin, et il y a eu, bien sûr, que connaît très bien Hubert, Philippe Allaire, qui, je pense, Philippe Allaire, dès le premier jour où je suis arrivé à Vincennes, m'a donné ma chance, et ça, je peux vous dire que ça vous aide.
Vous avez été adoubé, en quelque sorte, parce que ces deux grands personnages que sont Jean-Michel Bazir et Philippe Allaire.
Mais pour revenir à Jean-Michel Bazir, donc apparemment, il n'est pas inquiet pour l'avenir, puisqu'il dit que le personnel, ça fait 10-15 ans qu'il travaillait déjà là, donc il n'est pas inquiet pour l'avenir. Et puis que,
on ne connaît pas encore le nom du successeur de Julius, bien évidemment.
On ne connaît pas.
On aura le temps de le découvrir.
Et puis il dit que,
pourquoi pas d'accueillir.
Et il dit que les entraîneurs, pour lui, les ampoules, tout ça, ça n'avait pas d'importance. C'est vrai.
Oui.
Sauf peut-être pour les turfistes quand même, non, c'est pratique.
Oui, on
quand
veut
même.
De la lumière quand même pour faire
on
le papier.
De la lumière pour faire le papier.
Évidemment. C'est important
d'avoir
un bon éclairage.
Et puis sur les turfistes, je crois que tout ça, on parlerait dans le vide là aujourd'hui, non?
On parlerait un peu dans le vide. Encore que d'aucuns disent, le plus important dans les courses, c'est les propriétaires.
Oui.
On en a 6 ou 7 millions trop. Je ne sais pas comment on ferait avec eux pour faire fonctionner une activité qui génère 10 milliards de chiffre d'affaires.
Je crois qu'il y a un grand regret quand même. C'est un grand chef d'orchestre quand même.
Un grand chef qui part, mais on le retrouvera. Il n'est pas parti loin. Il est à Marseille, chez Kamel Chebboub. Et on sent juste ce tour que ça va bien se passer. Merci Julius d'être passé par
Julius,
Radio
bientôt,
Balance.
On rendra visite à
très,
Julius.
Très vite, on ira vous voir à Vivo ou à Borély. Hein. Vous commencez quand officiellement là-bas?
Alors, je commence officiellement le 1er mai.
Le 1er mai. Ah ben voilà.
La fête du travail.
Le jour de fête du travail.
Bravo, c'est magnifique. Voilà, les grands travailleurs commencent de nouveaux contrats le jour de la fête du travail. Voilà. Eh ben, on aura une pensée pour vous, Julius, tout court. Merci, bonne route.
Merci à vous, bonne soirée.
Merci,
au revoir. Hubert.
Au revoir. Je voudrais préciser, parce que demain, il y a des courses à Caen.
Oui, Hubert.
Et j'ai entendu parler de petites choses.
Ah, dites-nous tout.
Alors, il y a dans la deuxième, il y a le cheval de Philippe Allaire.
Oui.
Je pense qu'il faut le racheter.
D'accord.
Dans la cinquième, il y a le cheval de Monsieur Well.
Oui.
Qui s'appelle Illuminator.
D'accord.
Et dans la dernière, le cheval de Monsieur Lemonnier. Bon.
Eh bien, on fera un report des trois, voilà.
Voilà. Placé.
On va décrescendo sans être méchant.
Voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas de visite de l'hippodrome. Ça, je peux
non, ils viennent pas faire de tourisme.
Ils viennent pas visiter les Bourdons.
Ni la prairie, ni, ni le château.
Non, voilà. Voilà.
Bon, mais voilà qui est dit. Avant, oui, alors justement, les courses, ça se passe comment? Parce qu'il y a bien évidemment des pronostics. Je vous ai parlé d'Olivier Pellier, mais on aura les pronostics du galop pour lesquels officieront messieurs Gilles Barbarin et Kevin Nicole de The Turf. Quant au trot, je vais demander un petit son, parce qu'on n'a pas beaucoup de trot hein, par le trophée vert. C'est à Oraison, hein, c'est ça l'étape de ce week-end, semble-t-il. Bon, je ne sais plus trop, mais en tout cas, il est à du trophée vert. Cela, c'est Alexandre de Koopman qui nous en parlera. Ce sera bien évidemment en fin d'émission. Un mot sur... oui, je tenais à faire un peu comme tout le monde, rendre hommage, France Gallo l'a fait, au docteur Roland De Vols. Roland De Vols s'est éteint à 83 ans. Ça a été l'un des grands vétérinaires en charge de l'identification, notamment... l'identification de la lutte antidopage au sein de France Gallo. Voilà.
Puisqu'on est dans ce moment-là, j'ai aussi le père de Rémi Ménoret. Je pense que vous avez connu son père, qui était lui-même jockey. Et il est décédé hier.
Voilà. D'accord. Voilà. Mais De Vols, c'est quand même... ce qu'on vit aujourd'hui dans la lutte antidopage, c'est un peu Roland De Vols qui en avait jeté les bases. Et c'est un homme qui rayonnait tant sur les courses de chevaux, les courses que sur le sport hippique, il était mondialement reconnu, on peut dire cela ainsi. Allez, maintenant, on va parler du tracking, le tracking qui va mal, avec un invité, je vous en dis plus dans quelques instants. Bon, chose promise, chose due, on va parler ou pas du tracking sur les hippodromes français. On a quand même un peu l'impression que ça marche partout ailleurs, sauf en France. Il suffit de pratiquer le tracking en tant que... On va se mettre dans la peau du parieur ou du turfiste. D'ailleurs, j'adresse un message ici aux dirigeants de la société McLeod qui gère le tracking dont nous allons parler, hein, qui m'ont gentiment dit que vous retrouverez leur message sur Twitter... qu'est-ce qu'ils m'ont dit que m'ont dit ces charmantes personnes? On est à votre disposition pour répondre à vos questions et remarques ici. Nous faisons parfois des erreurs et les reconnaissons. L'enthousiasme sur la durée de vie de nos devices en est une. Nous sommes néanmoins sûrs de fournir le meilleur système de tracking au monde quand les ingrédients sont réunis. Et nous travaillons dur pour cela et pour établir au plus vite une qualité de service digne des courses françaises. J'entends bien votre discours, mesdames et messieurs. Sauf que moi, je suis turfiste. Quand ça marche, c'est pas un sujet. C'est-à-dire que ça marche. Quand ça marche de temps en temps, ça commence à m'énerver, d'autant que je sais dans les arrière-boutiques que cela coûte beaucoup, beaucoup d'argent à l'institution. On peut parler de millions d'euros. Je sais que le torchon brûle entre France Gallo, le trot et vous, mais les choses vont ainsi. Le tracking, en plus, ce sont des datas qui permettent de comparer les chevaux entre eux, mais aussi de voir l'évolution des chevaux dans une carrière. Lorsqu'on a un cheval, on est content de voir que la ligne droite, avant, il la faisait sur le pied de 12-13 et qu'il arrive à la faire en une 3 ou une 4. Lorsqu'il me manque, lorsque j'ai des trous dans une carrière, c'est un tracking qui ne me sert à rien. Et aujourd'hui, force est de constater que ce que l'on voit tant au galop, où on a des classements erronés pendant la course en direct, au trot, où on perd le tracking en cours de route, on ne sait pas où on est, eh bien, ça n'est pas satisfaisant. On est conscient ici à Radio Balance que le principe du tracking est un système, est un principe techniquement très compliqué. On va d'ailleurs en parler avec notre invité, Jérôme Fenaillon. Vous êtes directeur général d'Okaï France. On vous retrouve. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir Dominique.
On vous retrouve dans deux minutes. Donc le sujet n'est pas d'entendre des explications ou des excuses. Cela ne nous intéresse pas. Nous, on est turfistes. Et ce que l'on veut lorsqu'on va sur un hippodrome, c'est d'avoir un système qui fonctionne. Et comme je ne sais pas si c'est du tracking, cela, on veut aussi, sitôt la course arrivée, avoir l'arrivée. Et pas 6 minutes après, comme régulièrement sur les hippodromes de Longchamp, lorsqu'on a une arrivée de 7 ou 8 sur 2 mètres sur 2 longueurs, hein, et où on est obligé d'attendre que l'arrivée officielle soit affichée pour savoir où on en est. Je pense que c'est le minimum lorsqu'on accueille des gens sur un hippodrome qui vont vivre un événement sportif, en l'occurrence une course hippique en direct, de pouvoir, sitôt le poteau d'arrivée franchi par les différents concurrents, d'avoir une arrivée ou un semblant d'arrivée. Et là, on attend, c'est absolument insupportable. On a régulièrement, hein, Gilles Barbarin, bonsoir Gilles.
Bonsoir.
On a régulièrement des remarques hein, des uns et des autres, et il fallait parler de ce sujet parce que c'est, on parle des irritants, celui-là, c'est pas un irritant, c'est un excitant, mais dans le mauvais sens.
Oui, enfin, tu parlais des résultats des courses après les courses. Quand tu es dans une tribune sur un hippodrome, tu n'as jamais en face de toi l'arrivée indiquée.
Non. Jamais, non, d'autant, c'est vrai, que, c'est vrai, d'autant c'est vrai. Que les tableaux ont disparu. Avant, on avait toujours un tableau de marque où on se dépêchait d'aller afficher une arrivée. Ouais. Maintenant, ça n'existe plus.
C'est vrai.
Si je regarde les courses à Hong Kong, je m'aperçois que sitôt l'arrivée, sitôt 5 secondes après le passage des chevaux, on a tout de suite l'arrivée. Nous, on attend 5 minutes.
Oui, alors Hong Kong, oui, effectivement, c'est très bien fait. Cela dit, à Hong Kong, il y a deux hippodromes, il y a Sha Tin et il y a Happy Valley. Nous, en France, on a une multitude d'hippodromes. Mais c'est vrai qu'à Longchamp,
on a peut-être trop d'hippodromes, d'ailleurs.
Je ne sais pas, oui, ça, je ne suis pas.
On parlera tout à l'heure, de Bordeaux-le-Bouscat, où il s'est passé quand même des choses regrettables, extrêmement regrettables, infiniment regrettables. C'était lundi durant le 4 Plus. On a peut-être trop d'hippodromes.
Non, je sais pas. Ça fait la beauté des courses françaises aussi d'avoir une pluralité d'hippodromes comme ça. Enfin, il y a beaucoup de gens qui viennent aux courses parce qu'il y a un hippodrome dans leur région, que ça soit l'Ouest, que ça soit l'Est, à Strasbourg, à Nancy, à Vittel, voire dans le Sud-Est. Voilà, c'est toujours, ça fait toujours plaisir de se déplacer sur un hippodrome proche de son lieu d'habitation. Donc non, de dire qu'il y a trop de... Et encore, on en a supprimé beaucoup, hein, de dire qu'il y a trop d'hippodromes. Non, mais c'est bien d'avoir un tableau d'affichage ou quelque chose qui ressemble. Avant, on avait...
La moindre des choses quand
poteau,
tu vas au cours, c'est de pouvoir savoir quand l'arrivée est arrivée, mais qui est
oui,
arrivée, tu vois.
Exactement. Moi, c'est pas quelque chose qui me touche, puisque quand je regarde avec une paire de jumelles ou que je regarde
à l'œil nu, vous êtes pas
voilà,
dans la cible.
Je fais partie du microcosme, mais pour le spectateur lambda,
le dimanche en famille,
c'est vrai de savoir si vous n'êtes pas à côté d'un écran de télévision, et encore faut-il que ça soit un écran avec Equidia, vous n'avez pas l'arrivée.
Et là, on est très déçu, et c'est un message adressé à l'institution, c'est que il y a 6 ou 7 ans de cela. Lorsqu'on a lancé les Epic Series et l'Epic Tracking, on avait inventé l'eau tiède, c'est-à-dire qu'on allait avoir une précision centimétrique, savoir au centimètre près. Non, mais il rigole, Samy Boisa n'était pas là, mais c'était ça, la précision centimétrique. Au centimètre près, on savait où était positionné le cheval dans un parcours. Eh bien, c'est un bide absolu, on n'a pas rempli le cahier des charges, on n'a pas tenu nos promesses, et on se retrouve aujourd'hui dans un système donc, qui est géré par... les gens de McLeod, où les gens de McLeod sont obligés de dire à France Gallo, bah écoutez, comme on a des problèmes de capteurs, parce qu'il a fallu renouveler les capteurs, on a des problèmes de composantes électroniques, encore que les capteurs, je pense que lorsqu'on fait un rétro-planning, on sait qu'à un moment donné, on va les commander, donc on peut anticiper et ne pas avoir ce problème de fabrication de capteurs, et ben ils disent ben maintenant on va choisir les réunions. Donc il y a des réunions, il n'y aura plus de tracking, et d'autres, il y en aura. Autrement dit, le tracking, je le répète, c'est tout le temps ou c'est jamais. Là, il vaudrait mieux que ça s'arrête, qu'on se remette autour d'une table et qu'on essaie de trouver un système fiable. Jérôme Fenaillon, je reviens vers vous. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Okai France. Okai, c'est une société qui s'occupe notamment de la VAR. Donc, le savoir où on en est sur un terrain de foot et sur un hippodrome, ça, c'est un peu votre métier. Hein, on connaît la société Okai dans le tennis. Où, d'ailleurs, sur le tennis, ce n'est pas dans tous les tournois, hein, Jérôme. Hein.
Alors, ce n'est pas encore sur tous les tournois, mais ce sera bientôt, parce que désormais, la surface terre battue est approuvée pour ce système-là. Donc,
on l'a d'ailleurs, le Okai à Roland-Garros.
Vous l'aurez sur l'ensemble des tournois.
Voilà. Le joueur peut demander au Kai et on regarde, je crois qu'il a droit à 2 hein, dans un match, 2 ou 3, il peut demander au Kai.
Mais s'il a raison, ça lui
s'il a raison, ça, bah, on lui défalque pas.
Ouais, d'accord,
voilà.
Okay.
Il a le droit de demander au Kai à condition d'avoir raison, sinon on défalque. Voilà, il a 3 chances d'erreur hein, pour savoir exactement si la balle est pleine ligne, si elle touche la ligne ou si elle est hors du court. Donc, les technologies dont on parle, ces technologies de tracking, c'est un peu votre métier. Hein, on ne va pas vous mettre en porte-à-faux par rapport à ceux qui peuvent éventuellement votre concurrent. J'aimerais que, Jérôme, que vous nous expliquiez comment, sur un stade, et pour ce qui nous concerne sur un hippodrome, on peut transformer en data, autrement dit en données numériques, le positionnement d'un cheval par rapport à ses concurrents.
Ok, très bien. Alors, pour faire un peu de définition, rappelez que le tracking, en fait, c'est un système de localisation, de pistage, de suivi d'un homme, d'un animal ou d'un objet en mouvement à travers une suite de données numériques chronologiques. En résumé, on positionne, on localise quelqu'un ou quelque chose dans le temps et dans l'espace. Pour que ces données elles soient bonnes, il y a trois facteurs importants. C'est un, la précision des données. Deux, la cohérence de ces données, c'est-à-dire qu'on compare les pommes avec des pommes et pas des pommes avec des poires. Et l'immédiateté des données, des éléments dont vous avez parlé précédemment. Pour ce faire, il y a trois systèmes différents. Il y a le premier qui est plus connu, c'est le Global Navigation Satellite System, le GPS, comme on l'appelle. C'est le satellite américain qui donne ce type de système. En Europe, on a Galileo. Mais voilà, c'est le système le plus connu. C'est ce que vous retrouvez sur Waze, TomTom et autres applications de localisation quand vous prenez dans votre voiture pour vous diriger quelque part. C'est exactement le même principe qui est utilisé actuellement dans les courses, c'est-à-dire qu'on a un récepteur et un émetteur. L'émetteur, c'est un satellite. Je vous ai dit, ça peut être le GPS, le satellite américain, du Galileo ou d'autres. Il y en a en Russie, il y en a des Russes, il y en a des Chinois. Peu importe, on a plusieurs récepteurs qui est le capteur qui est sur le cheval.
Je vous interromps sur le GPS. Ouais. Vous me dites, il y a un satellite. Il y en a un ou plusieurs ? Il y a plusieurs. Est-ce qu'on utilise un satellite ou est-ce qu'on peut croiser les satellites entre eux ? Est-ce que on monte trois fois ?
On peut croiser. C'est un système de satellites, mais il y en a pas qu'un seul.
D'accord.
Qui gravite autour de la Terre. Mais après, je ne sais pas lequel est utilisé en l'occurrence par McLeod. Mmh. Mais enfin, ils sont tous. Je pense qu'il n'y a pas de problème de satellite meilleur que d'autres. En fait, un satellite donne la même chose. Après, ce qui va compter, c'est l'algorithme utilisé et la qualité aussi du récepteur. Le récepteur, en l'occurrence, c'est les capteurs qui sont sur les chevaux, et donc ça va permettre avec des ondes qui vont passer du satellite au récepteur et qui retournent au satellite et qui vont vous permettre de dire le cheval était à tel endroit à tel moment. Et ben, avec cette suite de données, on va reconstituer du coup une trajectoire et un temps de parcours qui vont donner les données qu'on a. Il y a d'autres systèmes. On peut rétablir le même système que celui du GPS dans une salle fermée en remplaçant le satellite par des antennes. Et enfin, il y a un troisième système, c'est utiliser des caméras optiques qui, elles, n'ont pas avoir besoin de capteurs, mais qui vont repérer l'objet, l'animal ou l'athlète, par exemple avec des données de squelette ou avec la forme du ballon, les couleurs. C'est ce qu'on a, nous, chez Okai, par exemple, quand vous avez dans le tennis, effectivement, le challenge. En fait, on s'est repéré la balle jaune dans le temps et l'espace sur un terrain de tennis. C'est la même solution qu'on a avec la goal line technologie pour savoir si le ballon a franchi ou non la ligne de but. Et c'est la même technologie qu'on utilise désormais en Ligue des Champions et en Coupe du Monde pour savoir si le ballon, pour traquer les joueurs et pour faire le hors-jeu semi-automatique. Cette technologie-là, elle est précise au millimètre. C'est la plus précise. Mais enfin, il faut installer un certain nombre de caméras autour du terrain. Donc c'est très fastidieux, c'est aussi beaucoup plus cher. Et sur un hippodrome, effectivement, la faisabilité technique est un peu plus complexe. Le plus commun et le plus accessible en termes de budget, ça reste le GPS. Mais encore une fois, en termes de précision des données, on ne va pas avoir la même fréquence d'échantillonnage que peut permettre des caméras optiques, par exemple. Donc effectivement, il y a une marge d'erreur.
Je vous interromps lorsque, moi je ne suis pas un spécialiste du foot, hein, pas comme Gilles Barbarin qui supporte, comme chacun le sait, le Paris Saint-Germain. Lorsque je vois que tel joueur a couru 10 km 281 dans tout le match, ça c'est la technologie que vous venez d'évoquer, les caméras optiques qui calculent.
Oui.
Et pourtant, le joueur...
Il y a d'autres technologies qui existent, avec des capteurs qu'ils ont dans des brassières qu'ils portent sur eux. Là, ça utilise la technologie GPS, mais ça va être moins précis que de la technologie avec de la caméra optique qui, elle, va être beaucoup plus précise puisque avec une fréquence d'échantillonnage beaucoup plus importante.
Est-ce qu'on disait, avec Gilles, on a peut-être beaucoup d'hipporomes en France, mais est-ce qu'un site comme Vincennes, j'ai eu ce tuto-tour, nous rappeler qu'à Vincennes, il y avait 155 courses par an. On peut imaginer que cette technologie...
Journée de course.
155 journées de course, j'ai dit quoi ?
T'as dit course.
155 journées de course, bien évidemment. 155 journées de course, est-ce qu'on peut éventuellement imaginer qu'à Vincennes, ce système puisse être développé et rentabilisé ?
Ah oui, effectivement, si on se dit que 250 hippodromes, c'est énorme, si on se focalise sur les principaux hippodromes, on peut envisager, ça devient beaucoup plus faisable tout de suite, d'envisager un tel déploiement sur des hippodromes comme celui d'Ancène. Ouais.
Un stade de foot, vos caméras optiques, il en faut combien pour tout traquer ?
Il en faut entre 10 et 12.
10 et 12, et ça reste à l'année. Je pense que le matériel est
installé. Oh, oui, c'est installé à la saison. Ouais.
C'est installé à la saison. Bon, ben voilà. Bref, vous avez compris, Gilles, avec le tracking sur nos hyperons, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein.
Oui, bah ça doit être un peu plus facile à mon avis. Enfin,
c'est plus petit, un stade de foot, hein. Bien
oui,
sûr.
Oui, oui, tout à fait. Mais enfin, pour le trot, il y a jamais de lisse comme il peut y avoir.
Non, et c'est vrai que nous on a un problème et vous le signalez, Gilles. C'est un casse-tête parce que quelquefois on déplace la lisse de manière à protéger la corde. On avait une lisse à Longchamp jeudi qui était à 16 ou 18 mètres, qui était très importante.
Ce qu'on remarque, c'est que les stades de départ ne changent jamais d'endroit au galop, en plat. Donc c'est pour ça que sur les programmes et sur les brochures de course, il y a indiqué 1400 mètres environ ou 1600 mètres environ, puisqu'en fonction de la lisse plus ou moins importante, voire quand il n'y en a pas, dans ces cas-là, c'est 1600 mètres. Il n'y a que la ligne droite de Longchamp où là, il n'y a pas de lisse et c'est tout droit, mais il y a marqué 1000 mètres environ. Ça ne doit pas faire 1000 mètres, hein, d'ailleurs.
Alors, justement, c'est important ce que dit Gilles. Un degré moindre, peut-être, dans le football, parce que, Jérôme, les stades de football n'ont pas tous la même dimension.
Non, mais tous les stades de football sont paramétrés dans notre logiciel. Donc, en fait, on a la carte d'identité de chaque stade.
Mais si un entraîneur décide éventuellement de faire le terrain un peu moins large, ça peut arriver, Samy rigole. Ça peut arriver, bien sûr.
Bien sûr, oui, ça arrive. Puis si la pelouse est changée, la ligne, elle peut être déplacée, elle peut être retracée 5 cm à côté. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un changement qui intervient, en général, c'est à l'intersaison, tous les ans, en fait, on doit passer, nous, un test par un laboratoire indépendant pour vérifier la précision de nos données et voir qu'on a bien paramétré ce stade dans notre logiciel.
Bah écoutez, voilà, les turfistes sont pas contents, nous ne sommes pas contents, on n'est pas contents du tracking tel qu'il existe en France, on va pas pouvoir dire plus, on n'a pas la solution, on sait juste que ça coûte cher, que ce n'est pas fiable puisqu'on a beaucoup d'erreurs de data, là c'est un comble, mais il faut que ça s'arrange une nouvelle fois, soit on fait, soit on fait pas, mais il devient absolument ridicule de s'acharner sur un système qui veut pas fonctionner ou qui fonctionne mal. Et qui coûte de l'argent finalement à tout le monde, aux institutionnels comme aux turfistes, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est encore eux qui financent les courses. Merci Jérôme Fenaillon d'être passé par Radio Balance, de boire un verre avec nous le vendredi soir dès que vous êtes libre. Ça nous fera plaisir de parler surtout à Gilles Barbarin, parler avec vous de football et des demi-finales et finales du Paris Saint-Germain. Merci Jérôme.
Avec plaisir, au revoir.
Salut,
au revoir.
Salut Jérôme.
Bon, après cette séquence trekking dont de vous à moi on se serait bien passé, il y a plusieurs choses à dire, on va aller balayer, après je vous donnerai le sommaire de ce numéro qui est assez exceptionnel parce qu'on va retrouver bien évidemment celui qui est notre invité central, c'est Olivier Pellier. Il y a beaucoup de choses à dire sur, je ne sais pas comment formuler cela, certaines pratiques des commissaires régulièrement dénoncées ici, jamais améliorées, mais il serait temps que ça cesse parce qu'on veut savoir ce qui se dit dans la salle du jury, hein, Gilles Barbarin.
Oui, moi je voudrais revenir quand même tous les jours. Hein, il y a des décisions des commissaires qui sont sur le site France Gallo. Vous avez donc par hippodrome et puis vous avez par course. Et le rôle des commissaires, et c'est très bien, c'est de veiller à la régularité des courses. Et lorsqu'un favori est battu, il convoque, généralement les commissaires convoquent le jockey qui montait le favori. Donc, bon, les explications qui sont parfois la connaissance du jockey, parfois le jockey n'a pas d'explication sur la contre-performance du cheval. Donc moi, plutôt que de lire les explications du jockey qui en sont, qui en sont pas, et de voir les commissaires ont entendu les explications, je voudrais qu'il soit demandé non pas au jockey, mais aux entraîneurs des chevaux concernés, de donner la raison s'il y a d'une contre-performance. Voilà. Alors parfois, ce sont aussi des mauvais favoris. Hein. Il y a des chevaux qui n'ont pas une première chance, qui sont installés favoris. Mais je voudrais que l'entraîneur donne l'explication. Et l'explication, elle ne doit pas être donnée obligatoirement le jour même. Elle peut être donnée 3 jours après, maximum, voilà. En 3 jours, on sait pourquoi le cheval a mal couru. Est-ce qu'il a saigné? Est-ce qu'il est revenu boiteux? Est-ce qu'il avait de la fièvre? Est-ce qu'il n'était pas souple? Est-ce qu'il y a une autre raison? Il y a différentes raisons, mais ça devrait être signifié par l'entraîneur par voie, par mail, OK, au commissaire de France Gallo. Et si la réponse n'intervient pas, mettons, dans les 72 heures, bah voilà, à ce moment-là, on interdit au cheval de se représenter en course. Voilà, je ne pense pas que ce soit très compliqué à faire. Les entraîneurs savent très bien consulter France Gallo lorsqu'ils ont un problème, lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Ils appellent France Gallo. Donc là, ils peuvent donner des explications. Bon, c'est une piste. Je ne dis pas que c'est la piste qui est préconisée, mais moi, je trouve que ça serait plus abordable et ça donnerait aux turfistes les explications. Parce que n'oublions pas quand même que ce sont les turfistes qui font vivre l'institution. Pas de turfistes. Pas d'enjeu, donc pas d'allocation. Et justement,
donc, pas
en ce moment.
Hein, parce que oui. Hein, des gens qui courent pour la gloire, qui courent pour la gloire sur les hippodromes ou pour le plaisir, parce j'en connais pas beaucoup. Hein.
Non, mais voilà, parce que les enjeux, ils sont quand même pas très bons.
On va arrêter avec ces bêtises-là. Oui. C'est pas qu'ils sont pas très bons, on se casse la gueule depuis 6 mois. Okay. Les enjeux se cassent la gueule depuis 6 mois. On a trouvé moyen d'aller augmenter la directrice générale de 26%. Hein, et à part ça, tout va bien. Et a priori, ça ne vous. Je le redis, ça n'inquiète que vous et moi, parce que depuis 6 mois, on ne voit rien passer. Hein. On voit absolument rien passer. Hein.
Non. Hein, après, bon. On peut expliquer que c'est le ramadan, que c'est ceci.
Non, mais
que
expliquer,
voilà,
il y a toujours une bonne explication. Parce que il faut quand même savoir une chose. Il y a un mois de ça, on disait oui, mais chez nous, c'est pas bien, mais la Française des Jeux, c'est pas bien non plus. Et on a vu tomber un communiqué où la Française des Jeux, ils ne se plaignent pas. Hein. Ils sont en plus. Hein. Donc, faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter les mensonges. Hein. Il faut commencer à être transparent par rapport aux gens des conseils d'administration plutôt que de leur raconter des salades et de travestir continuellement, perpétuellement la vérité. À un moment donné, il y en a marre.
Et c'est désolant de voir que les chiffres du prix du président de la République dimanche dernier n'étaient pas très bons.
Ni celui du prix d'Atlantique, hein, bah, je vous rassure. Il n'y a pas de jaloux comme
non,
ça.
Non, il n'y a pas. C'est pas
un partout entre le galop et le trot. Voilà.
Exactement. Il n'y a pas là. C'est tout le monde se serre les coudes et on essaye de. Voilà. Mais je pense que le PMU, les sociétés mères, doivent être, c'est plus que vigilants, mais et je crois qu'ils sont vigilants, c'est simplement.
Oui, c'est quoi le problème ?
Mais je sais pas. Non,
parce
que
vous savez que jusqu'à fin mai, alors là, on a vu arriver un beau mail du PMU pour nous dire que ça va être le mois, alors on va booster les paris, hein, on va doubler. Tiens, un sujet là, une petite astuce, Gilles. Vous jouez au quintet quelquefois ?
Non.
Non, ça vous arrive quelquefois.
Non, je vais jouer sur The Turf.
Le jour, je vais vous donner une astuce pour gagner 12% de plus que le rapport normal.
D'accord.
Voilà. Ils vont ressortir une promotion qui consiste à tirer deux fois plus de numéros plus, comment ils appellent ça, de multiplicateur par 2.
Oui,
c'est-à-dire qu'au lieu de 6, il va y en avoir 12. 12 par 2, ça fait 24. Plus, il y a un multiplicateur par 10 qui va sortir. 25. D'accord. Ça fait 24
c'est
et 10, ça fait 34.
Sur 6 de toucher.
Non, c'est pire que ça. Ouais. Là, écoutez, laissez ma logique. On va tirer 12 numéros multiplicateurs par 2, plus 1 par 10. D'accord. 12 par 2, ça fait 24, plus 10, ça fait 34. Or, il y a 30 numéros. C'est-à-dire qu'à la condition d'être sûr de toucher, je prends 5 chevaux, je vais jouer ensuite la même combinaison avec chaque fois un numéro différent, de 1 à 30, et si je touche, je suis sûr de gagner 10% de plus, puisqu'il y a un numéro qui va être bon, peut-être le fois. Voilà. Donc ça va être fantastique. Vous suivez ma logique ou pas ?
Oui, vaguement.
Je pense que ça peut bien se passer comme ça. Bon, oui, parce qu'il y a plein de numéros qui vont être gagnants. Vous allez avoir 13 numéros gagnants, les 12. Si vous jouez 30, vous allez en avoir 12 par 2 et 1 par 10. Donc vous allez gagner, vous allez multiplier par 34, mais vous aurez mis 30. Donc vous allez gagner 4. Voilà, ouais. C'est tout. Alors, mathématique.
Alors, on m'explique que c'est le nombre de partants qui fait la recette et donc...
Encore une fois, c'est des mensonges.
Je suis d'accord. Vous mettez de l'autre côté de la barrière, que vous êtes propriétaire, vous préférez courir une
bien
course
sûr,
à 6 partants
bien sûr.
Qu'une course à 16 partants.
Évidemment.
Voilà, donc... voilà.
Mais une nouvelle...
Et je dis encore, et je le redirai à chaque fois que j'aurai le micro... Il y a des courses avec peu de partants, les 9 partants, 8 partants, 7 partants, avec des rapports qui sont... Samy m'a envoyé encore cet après-midi, « Oh là là, t'as vu le Super 4, quel magnifique !» Je lui dis oui, c'était facile hein, quand on prend...
Partant du principe que de tout temps, depuis que les courses existent, il y a eu des courses à 16, à 18, à 20, à 22, parce qu'on a quand même, il leur faut des partants, on a quand même capé à 20 partants en France. Hein. Mmh. C'est, en Angleterre, on ne fait pas ça. Vous voyez, ils étaient combien dans le Grand National ? Ils étaient plus de 30. Voilà, plus de 30. Nous, on a capé à 20. Quelle bêtise ! Bon, donc il faut plus de partants. Mais de tout temps, on a eu des courses à 4, à 5, à 6 ou 7 pour peu qu'elles étaient de sélection.
Bien sûr, bah,
sauf qu'aujourd'hui, par rapport à cette époque-là,
c'est une pyramide,
on a une offre. On a une offre de jeu. Mmh. À chaque course, selon son nombre de partants, le jeu qui va bien avec. Le Super 4 va bien à 9 et en dessous.
Il y a le Trior qui est aussi
à la condition qu'on se décide enfin... Ah, parce qu'il va falloir quand même s'énerver là-dessus.
Aussi.
Non, pas communiquer, à séparer la masse du Triordre et du...
vous parlez pour le PMU.
Qu'on sépare la masse du Triordre et du Super 4. Parce que quand on me booste certains jours le trio, ça se fait au détriment du Super 4. Donc il y a quelque chose qui n'est pas clair d'un point de vue légal. À un moment donné, il va y avoir des problèmes. Quelqu'un va aller se plaindre, va aller au tribunal et on va lui donner raison. Hein, parce que, une nouvelle fois, le principe du pari mutuel est dévoyé dans ce cas précis. On a pu comprendre, et je le répète, on a pu comprendre que pour lancer le Super 4, il fallait une masse et qu'on l'ait adossé en trichant, avec la masse du trio. Mais maintenant, ça n'a plus lieu d'être. Le trio a ses clients, le Super 4 a des siens. Donc voilà, scindons les deux et on n'en parlera plus. Donc vous voyez, à chaque offre de course, on a le jeu qui va bien, à la condition de bien l'utiliser et de savoir en faire la promotion. Parce qu'aujourd'hui, on a bien compris que la seule promotion du Quintet ne suffit plus à faire grimper le chiffre d'affaires et à le faire progresser.
Et avec un Quintet Max qui est nouveau depuis le 1er novembre. Donc voilà, espérons que... Que les chiffres soient meilleurs. Et les sociétés mères, et je les comprends, et je partage leur avis, sont très inquiets. Et je suis très inquiet, comme eux, pour le niveau des allocations 2025.
Ce que je voulais dire, fin mai, c'est la dernière chance qui nous reste, parce qu'après, on va rentrer dans un long tunnel qui va nous emmener jusqu'au mois de septembre et les Jeux Olympiques. Voilà. Oui. Bon, on va tout de suite retrouver... Olivier Pellier pour lui rendre hommage, parce que Olivier Pellier c'est un peu ma vie, parce que il a commencé à monter en 89, moi je suis arrivé dans les courses en 91, c'est un peu notre vie et c'est surtout le plus grand jockey français de l'après-guerre avec Yves Saint-Martin.